Pour nous, nous avons pris les devants sur le navire et fait voile pour Assos, où nous devions reprendre Paul. Ainsi en avait-il décidé parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous l'avons pris à bord pour aller à Mytilène. De là, continuant par mer, nous sommes arrivés le lendemain devant Chios. Le jour suivant, nous touchions Samos et le jour d'après, nous arrivions à Milet. Paul avait en effet résolu de passer au large d'Éphèse afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour être à Jérusalem, si cela lui était possible, le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit: Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et je vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même: Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cela dit, il se mit à genoux pour prier avec eux tous. Tous, avec de grandes lamentations, se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ils étaient surtout affligés parce qu'il avait dit qu'il n'allait plus revoir son visage. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Je vous invite à prier. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole, pour le privilège de pouvoir la lire et l'étudier librement, et d'être ensemble ce soir à le faire, en ce lieu. Mais ce serait vain que d'essayer de te connaître par notre propre intelligence. Alors s'il te plaît, conduis-nous maintenant dans la méditation de ta parole, afin que par l'action de ton esprit, cette étude nous soit utile et qu'elle soit fructueuse pour notre foi et pour la vie de notre Église. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors vous et moi, nous avons au moins un point commun cet après-midi. Au moins un, peut-être plus, mais au moins un. C'est que nous sommes venus au culte. On a tous chanté ensemble, prié ensemble, on vient de lire la Bible ensemble. Mais voilà, il n'y a que Dieu et vous qui savent le sens que ce culte a pour vous dans le secret de votre cœur, dans votre fort intérieur. Et la question que j'aimerais que nous nous posions tous ce matin, c'est la suivante. Quel est le rapport entre cette petite heure et demie que nous passons au culte le dimanche après-midi et tout le reste de notre semaine ? Je pense qu'il est facile d'être un chrétien, du moins de ressembler à un chrétien quand on est à l'église le dimanche soir entre 17h et 18h30. Mais à quoi ressemble notre vie du lundi matin, 7h, 6h, enfin peu importe, à l'heure à laquelle vous vous levez, jusqu'au samedi soir, voire même jusqu'à dimanche midi si vous venez au culte l'après-midi chez nous. À quoi ressemble votre vie le reste du temps? À quoi ressemble votre vie quand les amis de l'église ne sont pas là? Quand vous êtes seul en famille, seul avec les collègues au travail, seul avec les camarades du lycée ou de la fac? Alors, le texte que nous venons de lire, vous l'avez peut-être ressenti, est particulièrement poignant parce qu'il s'agit des adieux de Paul à une église qui lui est chère, à des responsables, pour être précis, les responsables de l'église d'Éphèse qui lui sont chers, et on l'a vu à la fin du texte, ils se jettent à son cou et ils pleurent parce qu'ils ont compris qu'ils n'allaient plus revoir Paul, ici-bas du moins. Alors Paul, on l'a vu aussi dans le texte, il va les convoquer, ses responsables, pour leur donner ses dernières instructions. C'est le moment où l'église va devoir se débrouiller sans son aide, sans lui, sans le précieux apôtre Paul. Et Paul leur livre en quelque sorte son testament, ses dernières volontés. Et justement, la question qui anime Paul à ce moment-là, parce que lui aussi a bien compris qu'il n'allait plus revoir ces chrétiens d'Éphèse, la question qui l'anime, c'est justement celle-ci. À quoi va ressembler leur vie maintenant qu'ils vont être livrés à eux-mêmes? À quoi va ressembler leur vie maintenant qu'ils vont vivre au milieu d'une culture hostile au christianisme, au milieu de tous ces cultes païens qui sont très présents dans cette ville d'Éphèse? À quoi va ressembler leur vie maintenant que Paul ne va plus pouvoir leur rendre visite pour les gronder de visu lorsqu'ils se seront écartés du bon chemin? Est-ce qu'ils vont, ces chrétiens d'Éphèse, est-ce qu'ils vont retenir fidèlement l'enseignement que Paul leur a transmis? Ou bien est-ce qu'ils vont l'assaisonner à leur sauce, comme on dit, ou à leur goût, le modifier, cet enseignement, à leur convenance, pour pouvoir continuer à vivre comme ils le souhaitent, maintenant qu'ils sont plus surveillés par l'apôtre Paul? Et je crois que ce texte est très très riche. On ne va pas tout regarder, il y a beaucoup beaucoup de choses qui mériteraient d'être relevées dans ce discours de Paul aux anciens d'Éphèse. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne surtout, c'est le message principal de Paul aux chrétiens de cette église, et c'est le suivant. Paul ne veut pas que nous sous-estimions l'importance de ce qui nous a été transmis en tant que chrétiens. Paul ne veut pas que nous sous-estimions l'extrême importance de ce qui nous a été transmis en tant que chrétiens. Et il veut que nous prenions conscience de cela pour que cette heure et demie de culte, le dimanche après-midi, ne soit pas juste une parenthèse dans une vie qui, le reste du temps, court le risque de ne pas avoir grand-chose de chrétien. Alors, j'ai conscience que, exceptionnellement, vous n'avez pas le bon plan à l'intérieur du bulletin, je vais vous le donner. J'ai trois choses à souligner dans ce discours de Paul concernant ce qui nous a été transmis en tant que chrétiens. La première, c'est que c'est un héritage péniblement mais soigneusement transmis. La deuxième chose, c'est que c'est un héritage à assumer difficilement mais nécessairement. Et la troisième chose, c'est que c'est un héritage à protéger absolument. D'accord ? Un héritage transmis péniblement, premièrement, à assumer difficilement, deuxièmement, et à protéger absolument, troisièmement. D'accord ? Alors, la raison pour laquelle j'ai commencé à lire à partir du verset 13, pour bien comprendre dans quel contexte s'inscrivait ce discours, c'est parce que le texte nous présente Paul comme étant fatigué de son travail missionnaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il approche de la fin de son troisième voyage missionnaire. Et à l'époque, on ne voyageait pas en avion, confortablement assis avec des hôtesses et des stewards qui nous servent à manger. Voilà. À l'époque, le voyage était très éprouvant. Le texte nous dit que Paul est pressé d'arriver à Jérusalem, mais en même temps, verset 13, Luc précise que Paul choisit délibérément de faire une partie du chemin à pied, tout seul. Et ensuite, le texte nous précise qu'il enchaîne les voyages jour après jour. C'est vraiment un programme intense. Assos, Mytilène, Chios, Samos, Milet, toutes ces villes nous sont mentionnées pour souligner l'intensité du voyage de Paul. Et ensuite, il arrive près d'Éphèse et il convoque les anciens, c'est-à-dire les responsables de l'église de cette ville. Et la première chose qu'il leur dit, c'est combien il a souffert pour leur transmettre le message de l'évangile. Verset 19, il l'a fait avec, en toute humilité, avec des larmes, en subissant beaucoup d'épreuves. Vous voyez, c'est un Paul affaibli, atteint, qui nous est présenté au début de ce discours. Et pourtant, Paul dit qu'il a continué de le faire, il a continué de leur prêcher l'évangile sans rien dissimuler, dit-il. Il l'a fait en toute transparence, publiquement, afin que ces chrétiens reçoivent tout ce qui leur soit utile. Et de plus, et ça on l'apprend un peu plus tard dans son discours, versets 33 à 35, il a fait tout ça à ses propres frais, il a payé de sa poche, il n'a rien exigé en retour, il n'a pas demandé à être nourri même en retour de son travail. Paul s'est livré corps et âme à son travail. Et là, on comprend en lisant ce texte, et surtout si on lisait les 19 chapitres précédents, que Paul commence à être fatigué. Et il nous parle d'un enseignement qu'il a donc transmis avec beaucoup de peine, mais qu'il a transmis néanmoins avec beaucoup de soin. Un héritage, voyez-vous, péniblement mais soigneusement transmis. Alors imaginez qu'un jour, vous avez une grande tante qui décède et vous héritez de cette grande tante un tableau d'une valeur inouïe, inestimable. C'est un tableau mythique convoité par les plus grands musées du monde. En fait, ce tableau a été trouvé à la fin du 19e siècle dans l'épave d'un bateau au fond de l'océan Indien. Il a été rapatrié en France à cette époque-là au prix de beaucoup de sacrifices, d'efforts, d'argent. Il y avait même des combats pour essayer de protéger ce tableau. Puis de fil en aiguille, on ne sait pas trop comment, il est arrivé chez votre grande-tante. Et puis elle décède et voilà que c'est vous qui en héritez de ce tableau. Ah, maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez en faire étant donné l'historique de ce tableau? De façon un peu similaire, Paul sait que le message de l'évangile est tellement précieux que les chrétiens, déjà à son époque, comme nous aujourd'hui, nous sommes un peu comme les héritiers de ce tableau inestimable. Le problème, c'est que bien souvent, quelle est notre attitude aujourd'hui? Comme c'était sans doute une tentation pour les chrétiens d'Éphèse. Notre tentation, le problème, c'est que nous avons tendance à trouver ce tableau un peu encombrant. Nous trouvons l'évangile un peu encombrant. Et qu'est-ce qu'on préfère faire avec? On préfère le ranger au grenier, où il ne va pas gêner notre vie, notre fonctionnement quotidien, plutôt que de le suspendre sur la cheminée ou sur le mur du séjour à la maison. Vous voyez? Et donc Paul, en premier lieu, dans son discours, veut nous rappeler la valeur inouïe de l'héritage qui nous a été transmis, c'est-à-dire l'enseignement apostolique, c'est-à-dire le message de l'évangile dans sa globalité. Le texte veut nous rappeler aussi à quel prix ce message nous est parvenu. Le message de l'évangile, vous le savez, je l'espère, c'est la bonne nouvelle, c'est ça que veut dire l'évangile, c'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du pardon qui est offert aux hommes pour leurs péchés, un pardon qui est offert à un très grand prix. Au prix du sang du Fils éternel de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le sang précieux du Fils éternel de Dieu qui a coulé sur la croix. Avez-vous noté cette expression de l'apôtre Paul au milieu de son discours au verset 28? Il parle de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Qui s'est acquise l'Église? Qui s'est acquis l'Église par son propre sang? Dieu, dit-il dans ce verset. Paul a bien conscience que Jésus est Dieu, le Fils, Dieu incarné. Son sang a été versé pour le pardon de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Et ce pardon est offert à tous. Paul aussi le souligne, il l'a annoncé aux Juifs et aux Grecs, à tout le monde, publiquement il l'a annoncé. Sans discrimination, pour que tous les hommes, les femmes et les enfants qui se repentent devant Dieu et placent leur foi en Jésus, reçoivent l'espérance de la vie éternelle. Alors est-ce que nous mesurons vraiment la chance que nous avons aujourd'hui d'avoir la liberté, je dis bien la liberté, de lire la Bible, la liberté de venir au culte le dimanche après-midi, la possibilité même, et je sais que ce n'est pas idéal, mais quand même la possibilité de nous réunir dans un lieu à l'abri de la pluie et du vent, la liberté que nous avons de pouvoir nous renseigner tout simplement concernant le message de l'Évangile. Alors que dans le monde, il y a encore aujourd'hui des endroits où l'on est mis à mort pour ces choses-là, où c'est interdit par la loi. Je pense aujourd'hui notamment au pasteur en Iran, pasteur Youssef, qui est emprisonné depuis plus de 2 ans maintenant. Je pense souvent à lui parce qu'il a mon âge. Il est un jeune papa avec des jeunes enfants. Il a été condamné à mort par le régime iranien parce qu'il l'accuse d'avoir renié l'islam. Est-ce que nous mesurons vraiment la chance que nous avons aujourd'hui ? La Bible que nous tenons dans nos mains est entachée du sang des martyrs qui nous ont précédés, dans l'histoire et même ici à Lyon. Et j'espère que vous connaissez un peu l'histoire du christianisme à Lyon, pour mesurer la chance que nous avons aujourd'hui. Vous voyez, le message de l'Évangile a été rendu disponible, accessible, au prix de beaucoup d'efforts, de sacrifices et même de vie humaine. Et nous, on voudrait y consacrer 1h30, le dimanche soir, quand ça nous arrange encore. Ou pire, il y a des gens qui ne s'intéressent même pas à ce message, qui pourtant a été si soigneusement et péniblement transmis jusqu'à nous aujourd'hui. Mais le texte continue, hein, et après nous avoir rappelé combien péniblement, mais soigneusement, cet héritage nous a été transmis, eh bien le texte va nous parler de la difficulté, mais de la nécessité à l'assumer, cet héritage. C'est mon deuxième point, donc un héritage à assumer difficilement, mais nécessairement. Donc Paul a parlé du mal qu'il s'est donné, d'accord, à transmettre aux Éphésiens le message de l'Évangile. Et maintenant, à partir du verset 22, il va témoigner de ce que sa vocation chrétienne a entraîné dans sa propre vie, sa vocation chrétienne, et même particulièrement sa vocation en tant que témoin de Jésus, en tant qu'apôtre, en tant que missionnaire. Qu'est-ce que ça a entraîné dans sa propre vie ? Que du bonheur ? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit au verset 22-23 ? Voici que lié par l'Esprit, c'est-à-dire contraint dans son fort intérieur par le Saint-Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais aucun cas de ma vie. Il a conscience, l'apôtre Paul, qu'il va au-devant de grandes difficultés, de tribulations, dit-il. Il sait que sa vie même est en danger. Paul est en train de dire aux anciens d'Éphèse, pourquoi est-ce qu'il mentionne ça aux anciens d'Éphèse ? Il est en train de leur dire, voilà, j'ai porté moi, pendant tant d'années, ce message que je vous ai transmis, cet héritage qui est votre maintenant. Je vous l'ai transmis péniblement, mais soigneusement. Maintenant, c'est vous qui portez le flambeau. Moi, je vais au-devant de difficultés. Je suis en train d'achever ma course et mon ministère. La balle maintenant, chers Éphésiens, chers responsables de l'église d'Éphèse, la balle maintenant est dans votre camp. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Est-ce que vous maintenant, vous allez porter le flambeau ? Est-ce que vous maintenant, après mon départ, vous allez continuer à assumer fidèlement l'héritage qui est votre ? Et Paul précise que sa vocation, c'était quoi ? C'était de rendre témoignage, dit-il, à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, c'est-à-dire à l'évangile de la grâce de Dieu. Alors vous savez, parfois dans les affaires judiciaires, on entend parler du témoin numéro un. C'est quoi le témoin numéro un dans une affaire judiciaire ? C'est la personne dont le témoignage est absolument capital pour le procès, n'est-ce pas ? Témoin numéro un. Et pour les uns, voyez-vous, ce témoin numéro un, c'est la personne la plus précieuse qu'il faut protéger à tout prix. Pour les autres, le témoin numéro un, c'est la personne la plus dangereuse qu'il faut éliminer à tout prix. Et Paul a conscience que lui-même, en tant que chrétien, il est dans cette situation. Pour les uns, la personne la plus précieuse. Pour les autres, la personne la plus dangereuse, qu'il faut éliminer à tout prix. Et d'une certaine façon, on peut dire que le message qui nous a été transmis, l'évangile, donc le message de l'évangile, c'est un élément capital dans l'affaire judiciaire qui concerne ni plus ni moins que l'humanité. Et nous sommes en tant que chrétiens les héritiers, on pourrait employer le terme de légataire ou de destinataire de cette information qui est contenue dans l'évangile, de ce message de l'évangile, cet élément capital dans l'affaire judiciaire qui concerne l'humanité. Et nous sommes donc en tant que chrétiens les témoins numéro un dans cette affaire. Nous sommes, et je le dis avec précaution, mais en tant que chrétiens, nous sommes les personnes les plus importantes ici-bas. Parce que nous avons avec nous le message qui concerne au plus haut point toute l'humanité. Est-ce qu'il y a un message plus important que le message de l'Évangile? Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que les chrétiens qui a ce message? Paul, je crois, veut que nous mesurions. Il veut que les anciens à Éphèse mesurent l'enjeu de ce qui leur a été transmis. Ce message de l'Évangile, certes, c'est une bonne nouvelle à accueillir dans notre vie, une bonne nouvelle à partager publiquement, librement, sans discrimination, mais en même temps, la vérité de l'Évangile, c'est une vérité qui dérange. Et c'est nous d'abord qu'elle dérange, la vérité de l'Évangile. Pourquoi ? Parce qu'elle exige de notre part une vie radicalement transformée. Une vie de dépendance de Dieu par la foi en Jésus. Le message de l'Évangile exige que nous renoncions à notre autonomie. Ça dérange. C'est pas que nous que ça dérange. Le message de l'Évangile dérange le monde qui nous entoure, évidemment. Puisque le message de l'Évangile parle du péché. Le message de l'Évangile parle de l'impuissance des êtres humains, de leur incapacité à se sauver eux-mêmes. Le message de l'Évangile parle du fait que les êtres humains sont tous perdus s'ils ne renoncent pas à leur autonomie et s'ils ne se confient pas en Jésus et en lui seul. Alors, évidemment, vous comprenez donc que lorsque l'on accueille la bonne nouvelle de l'Évangile et que l'on commence à assumer ce message qui nous a été confié, ce flambeau qu'il nous appartient de porter, eh bien, évidemment, cela va entraîner des difficultés dans la vie. J'en parlais un peu la semaine dernière. Paul a écrit ceci à son jeune apprenti, Timothée. Il lui a écrit ceci: « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, pieusement, c'est-à-dire dans la piété, en Jésus-Christ, seront persécutés. Ça, c'est la réalité. En même temps, nous avons un héritage inestimable entre les mains, un message d'une valeur inouïe. Est-ce qu'on va le ranger au grenier, quitte à le sortir une fois par semaine, pendant une heure et demie, ou bien est-ce qu'on va le suspendre au mur de notre salle à manger, au-dessus de la cheminée, là où tout le monde pourra le voir, bien sûr. Certains seront dérangés, comme nous aussi, cela nous dérange et nous gêne peut-être de le voir suspendu au-dessus de la cheminée dans notre maison. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cet héritage d'une valeur inouïe? Le texte ne s'arrête pas là. Après nous avoir parlé donc de ce message qui nous a été transmis péniblement mais soigneusement, c'était mon premier point, et qui, deuxièmement, doit être assumé difficilement mais nécessairement, et bien troisièmement, le texte nous montre que ce message ou cet héritage qui nous a été transmis doit être protégé absolument. Protégé absolument. Et cela, on le voit notamment dans les versets 25 à 32. Paul annonce donc aux Éphésiens qu'ils ne vont plus le voir, verset 25. Paul est en train d'officiellement couper le cordon avec cette église, en annonçant qu'il leur a transmis tout ce qu'ils avaient à recevoir, tout ce qui leur serait utile, il leur a enseigné. Et tout de suite après, Paul les met en garde contre des loups, des gens qu'il appelle des loups, qui vont, dit-il, s'attaquer à l'église, des hommes qui vont annoncer des choses contraires à la parole de Dieu. Paul est en train de leur dire, vous voyez ce que je vous ai donné, aussi péniblement, vous voyez ce que je vous ai donné, vous voyez ce que vous devez assumer maintenant, le flambeau que vous devez tenir maintenant que je m'en vais, eh bien, maintenant, prenez-en soin. Prenez-en soin. Protégez ce que je vous ai transmis. Alors, je me souviens d'il y a quelques temps, quelques années maintenant, avec Suzanne, on a envoyé un colis à une de ses sœurs qui habite aux États-Unis. C'était un colis qui contenait des choses assez, d'une valeur assez importante, notamment de très beaux vêtements, neufs, et d'autres bricoles, et qui étaient assez précieuses. Certaines choses avaient même une valeur sentimentale, point de vue purement pécunier, ça ne valait pas grand-chose, mais il y avait une grande valeur sentimentale. Et on lui a envoyé ce colis, on a pris soin de bien l'emballer, ce colis, pour le protéger. On l'a envoyé en prioritaire, vous savez, pour que ça lui parvienne le plus rapidement possible. On a rempli toutes sortes de papiers pour les douanes, pour déclarer le contenu. Enfin, si vous avez déjà envoyé des colis à l'étranger, vous savez ce qu'on doit faire. On remplit des papiers, on met la valeur de ce qu'il y a à l'intérieur, on met le détail, etc. Et puis, quelques semaines plus tard, quelle ne fut pas notre tristesse d'apprendre que le colis était bien arrivé, mais dans un emballage différent, deux fois plus petit, et avec deux fois moins de choses à l'intérieur. On était vraiment déçus et tristes. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que, d'une certaine façon, on peut dire que Dieu nous a aussi envoyé un colis, avec quelque chose de très précieux à l'intérieur. Mais au fil du temps, non seulement dans l'histoire de l'Église, mais peut-être aussi dans l'histoire de votre propre vie, la moitié du contenu a été volée. Et nous volons encore aujourd'hui le contenu du colis que Dieu nous a envoyé lorsque nous choisissons les éléments de sa parole qui nous conviennent et ceux que nous préférons ne pas recevoir. Nous abîmons cet héritage, ce message qui nous a été transmis, que Dieu nous a transmis, lorsque nous assaisonnons à notre sauce, à notre goût, eh bien, le message de l'Évangile, les paroles de Dieu, celles qui nous sont notamment difficiles à accepter. Nous volons dans le colis lorsque nous disons « Amen » le dimanche après-midi et que nous faisons le contraire de ce que nous avons dit eh bien, le lundi matin. Mais au lieu de cela, vous voyez, la Bible nous exhorte au discernement et à l'humilité devant la parole de Dieu pour que nous la recevions en étant disposés à accepter tout ce que Dieu nous dit, tout ce que Dieu veut faire dans notre vie, même les choses qui ne nous plaisent pas. Alors, pour conclure, je vous invitais à vous poser la question de savoir quel était le rapport entre cette petite heure et demie que nous passons ensemble dimanche après-midi et le reste de votre semaine. Qu'est-ce que nous devons retenir pour que cette heure et demie ne soit pas juste une parenthèse dans une vie qui, le reste du temps, court le risque de ne pas avoir grand-chose de chrétien? Eh bien, posons-nous donc ces quelques questions pour finir. Posez-vous ces quelques questions pour finir. À quel point est-ce que je m'intéresse vraiment au message qui m'a été rendu accessible au prix de beaucoup d'efforts et de souffrances, à savoir le message de l'Évangile? À quel point est-ce que je m'intéresse vraiment au contenu de la Sainte Bible que nous avons la liberté d'étudier aujourd'hui, au prix de beaucoup d'efforts, de sacrifices, de souffrances qui nous ont précédés dans l'histoire? Deuxièmement, à quel point ce message a-t-il transformé ma vie? Et à quel point continue-t-il de transformer ma vie, si du moins je l'ai reçu dans mon cœur, si du moins j'ai plié le genou intérieurement devant le Seigneur Jésus-Christ, si du moins j'ai placé toute ma confiance en lui en reconnaissant qu'il n'y a pas d'espérance en dehors de Jésus-Christ? Et troisièmement, à quel point est-ce que je suis conscient qu'il faut protéger jour après jour, l'intégrité de ce message, plutôt que de l'assaisonner à mon goût ou peut-être de l'assaisonner au goût du jour pour plaire aux autres, ou de sorte que ma vie ait moins besoin d'être transformée, ce qui parfois est désagréable et inconfortable. À quel point est-ce que j'ai conscience qu'il faut protéger l'enseignement qui nous a été transmis? Nous avons donc hérité ce tableau d'une valeur inouïe. Est-ce qu'il est actuellement rangé dans la poussière du grenier? Il n'est pas trop tard, mes amis, pour le dépoussiérer et le suspendre au mur de la salle à manger. Est-ce que vous l'avez quelque peu recoloré, corrigé ce tableau? Vous sortez vos pinceaux et la gouache et vous êtes dit qu'il y a peut-être quelques erreurs à corriger par rapport à la version originale. Vous trouviez peut-être que ce tableau n'était pas assez assorti avec les rideaux. Il n'est pas trop tard pour faire restaurer ce tableau, c'est-à-dire en vous plongeant de nouveau dans la parole de Dieu. Et s'il y a quelque chose à changer, ce n'est pas le tableau, ce sont les rideaux. L'évangile, quand il est rangé au grenier, c'est un évangile qui n'a pas vraiment été reçu. L'évangile qui a été reçu mais qui a été modifié, c'est un faux évangile. La parole de Dieu doit être reçue dans son intégralité et dans son intégrité. Et c'est là, je crois, le testament de Paul aux Éphésiens, ses dernières volontés exprimées dans ce discours. Je termine avec cette autre parole écrite par l'apôtre Paul, cette fois qu'il a adressé à Timothée. Timothée qui, entre parenthèses, était le pasteur de l'église d'Éphèse après ces événements que nous venons de lire dans le livre des Actes. Voici ce qu'il écrit donc au pasteur de l'église d'Éphèse, quelque temps plus tard. Nous trouvons ce texte dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1, versets 8 à 14, pour ceux qui veulent suivre ou qui veulent prendre des notes. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen.